C'est vendredi, c'est le 12 octobre et Hélène Denis qui vous accompagne à l'émission Le quotidien des quotidiens jusqu'à 11h30. Et c'est Maurice qui est là.
Oui, bonjour.
Bonjour. Jean-Sébastien Laliberté sera de retour la semaine prochaine de son congé de maternité,
de
si
mémoire,
je ne m'abuse.
Ouais, de mémoire, je crois que
ah,
oui.
Ah, de mémoire.
Mais
c'est pas officiel.
Oui. Mais il me semble que oui. Ben là, de mémoire, c'est un courriel, j'ai vu là 2 mois. Donc,
OK, d'accord.
Je regarde pas mes vieux courriels.
Donc,
toujours.
Suspense. Non, je ne sais pas si Jean-Sébastien est à l'écoute, mais si oui, vous pourriez nous le confirmer par courriel.
Non,
mais
il devrait être là, je suis pas mal sûr.
Oui, moi, les devrait là... C'est pas une réponse avec laquelle je suis très à l'aise, mais ah. On verra lundi. Merci.
Mm-hmm. Alors, Maurice, pareil, faites-vous-en pas.
Pardon?
Je vais me lever quand même, faites-vous-en pas.
Ah oui, vous serez là au cas où?
Non, pour faire le transit.
Le transit.
Ben, il y a des trucs qui est arrivé nouveau que Jean-Sébastien ne sait pas. Il faut que je le mette
au
courant.
Ah oui, vous allez être au poste.
Une heure, à peine.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire sans Maurice?
Beaucoup de choses.
Ben, même moins que si vous n'étiez pas là.
Pas sûr.
Allez-y donc, mon cher.
Bonjour. Donc, 12 octobre. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale pour la vue. 80% de tous les cas de cécité sont évitables ou guérissables. Le droit de la vue, donc, peut et doit être mis en œuvre. On estime à 180 millions le nombre de personnes qui souffrent d'une incapacité visuelle dans le monde. De 40 à 45 millions d'entre elles seraient aveugles. Sur 180, c'est quand même beaucoup. Donc, les événements en 1492, partie le 3 août de Palos, près de Cadix, où est-ce qu'habite la Belle. La Santa Maria, la Pinta et la Nina, les caravelles de Christophe Colomb arrivent à l'île de Gunahani, dans les Lucayes, aujourd'hui nommées les Bahamas. C'est la première île découverte par Christophe Colomb. En 1822, le Brésil, possession portugaise, proclame son indépendance. 1825, Simon Bolivar devient le premier président de la République de Bolivie. En 1945, les Alliés dissolvent le Parti national socialiste, le Parti nazi, en Allemagne occupée. 1953, l'URSS fait exploser sa première bombe H. 1957, le premier ministre canadien Lester B. Pearson reçoit le Nobel de la paix. Et ça, il m'en manquait un petit bout dans l'histoire, ce qu'on vous allez voir à la fin. En 1960, à l'ONU, l'orateur philippin ayant dénoncé le joug soviétique en Europe, Nikita Khrouchtchev tape sur son pupitre avec son soulier.
Ah oui, je me souviens.
On a toujours vu l'image, mais je ne savais pas pourquoi il frappait avec son soulier. Et le président de l'Assemblée générale à l'époque, Frédéric Bolland, brise même son maillet en tentant de calmer le débat.
C'est une image frappante, c'est le cas de le dire.
Ouais,
et cassante aussi.
Absolument. En 1969, ça c'est cocasse, un mystérieux appel téléphonique d'un auditeur insiste pour qu'un disque jockey d'une station de radio underground de Détroit fasse tourner Revolution des Beatles à l'envers. L'animateur s'exécute et des auditeurs croient entendre une voix qui dit « Turn me on, dead man ». C'est ainsi que se répand la rumeur de la mort de Paul McCartney. Je ne sais pas si vous vous souvenez,
mais
il disait
que
Paul McCartney est mort, blablabla, ben ça viendrait de là.
C'est le diable qui parlait,
À l'envers. En 1996, à Québec, c'est la chute du funiculaire reliant la rue Petit-Champlain à la terrasse du Frein.
Ouais, ça, c'est moins drôle.
Oui, ça fait 2 morts.
Je l'ai pris cet été, puis j'ai eu ce flash-là.
Ah, j'aime jamais le funiculaire. J'ai déjà pris celui quelques fois ici de la tour, là, la tour olympique.
Mm-hmm. Vous étiez mal?
Non, j'aime pas les funiculaires. Peut-être parce qu'on voit l'environnement. Pourtant, on prend un ascenseur à 40 étages, il n'y a pas de problème.
Ouais. Funiculaire, mais j'ai bien aimé mon expérience, puis ça nous fait aussi épargner des pas. Quand on a plus de genoux,
ça aide beaucoup. Tuk-tuk ici, en 2001, le prix Nobel de la paix est attribué à l'ONU et à son secrétaire général Kofi Annan. Autre prix Nobel cette fois-ci, en 2007, c'est l'ancien vice-président américain Al Gore et le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, qui obtiennent aussi le prix Nobel de la paix. Une naissance, on souligne la naissance du ténor italien Luciano Pavarotti, qui est né en 1935, qui nous a quittés il y a 11 ans en 2007. 2 décès, le compositeur et pianiste russe Sergei Prokofiev décédait en 1953. Et en moins 30 avant notre ère, Cléopâtre VII, reine d'Égypte, décédait. Et voilà, ça fait le tour de ce 12 octobre.
Merci Maurice. En une de la presse de ce vendredi 12 octobre, défaillance d'une fusée Soyouz, Saint-Jacques ira-t-il dans l'espace? Ce devait être un vol de routine pour acheminer deux astronautes vers la Station spatiale internationale. L'opération s'est plutôt transformée en mission de sauvetage. Que s'est-il passé et quel sort connaîtra maintenant le voyage de l'astronaute québécois David Saint-Jacques prévu pour décembre? Sport, Kings 3, Canadiens 0. Les Kings gâchent la fête. Stationnement sur rue à Laval, on ne veut pas devenir le stationnement incitatif du centre-ville. Et art, cinéma, tourner plus ou moins. Montréal veut attirer davantage de tournages étrangers, mais des résidents plaident qu'il y en a déjà trop. L'astronaute québécois David Saint-Jacques a assisté à l'accident d'hier en direct. Il se trouvait à Baïkonour en tant que membre de l'équipage substitut et aurait pu être amené à prendre place à bord de la Soyouz en cas de malaise du copilote. Il n'a pas livré de commentaires après l'accident qui soulève un grand nombre de questions. Les dirigeants des agences spatiales internationales ont tenté tant bien que mal d'y répondre. Compte rendu, Philippe Mercure, je vous en lis quelques passages. Qu'est-ce qui a causé la défaillance du propulseur de la fusée Soyouz? On l'ignore encore. Roscosmos, l'agence spatiale russe, a immédiatement annoncé la tenue d'une commission d'enquête. La NASA, lui, a assuré sa pleine collaboration et annoncé qu'elle tiendrait sa propre enquête. Hier, tant les responsables de la NASA que ceux de Roscosmos ont voulu insister sur une chose. Les astronautes se sont tirés sains et saufs de cette situation critique, évitant un drame humain et montrant que les systèmes conçus pour les urgences fonctionnaient bien. Autre question, la mission de l'astronaute canadien David Saint-Jacques, qui doit partir pour la Station spatiale internationale à bord d'une capsule Soyouz le 19 décembre prochain, est-elle compromise? Il faudra attendre de voir les conclusions de la commission d'enquête. Le nouveau calendrier de vol sera discuté avec tous les partenaires de la Station spatiale internationale, répond Gilles Leclerc, directeur général exploration spatiale à l'Agence spatiale canadienne. Selon lui, il est donc trop tôt pour dire si la mission sera retardée. Qu'advient-il des astronautes déjà à bord de la Station spatiale internationale? C'est l'une des questions qui était sur toutes les lèvres hier. L'accident fait en sorte que ceux qui devaient les relever de leurs fonctions ne sont pas au rendez-vous. Le fait que les fusées Soyouz sont clouées au sol le temps que l'enquête suive son cours complique aussi les choses. La NASA a admis hier qu'il est possible que les trois astronautes actuellement à bord restent plus longtemps que prévu dans l'espace. La NASA assure que l'équipage a plus qu'assez de nourriture, d'eau et d'air pour prolonger son séjour. La Station spatiale internationale pourrait-elle rester vide? En un mot, oui. Et en septembre, un trou a été découvert dans la capsule Soyouz amarrée à la Station spatiale internationale. Cela fait donc deux incidents qui touchent les Soyouz en quelques mois, alors que ces véhicules volent sans problème majeur depuis des décennies. Y a-t-il un lien entre les deux événements? Non, absolument pas, répond Gilles Leclerc de l'Agence spatiale canadienne. Et quel degré de confiance règne-t-il actuellement entre les agences spatiales russes et américaines? La question a été soulevée hier par des journalistes. En septembre, après la découverte d'un trou dans la capsule Soyouz amarrée à la Station spatiale internationale Roscosmos, avait avancé la thèse d'un acte délibéré. Les autorités russes avaient suggéré qu'un astronaute américain à bord de la station avait pu saboter la Soyouz pour forcer un retour sur Terre. Hier, la Russie a aussi parlé d'une enquête criminelle pour faire la lumière sur la récente défaillance, un adjectif qui n'a pas été expliqué et qui a suscité bien des questions. L'accident survenu hier est-il unique? Non, mais il faut remonter à 1983 pour voir un accident touchant une capsule Soyouz habitée. Dernière heure, le directeur principal et cofondateur d'Équiterre, Stephen Guilbeault, quitte la direction de l'organisme environnemental. Cela dit, comme certains médias l'avançaient, ce n'est pas pour faire un saut en politique ni pour défendre les couleurs du Parti libéral du Canada. Stephen Guilbeault poursuivra son travail engagé sur la lutte au changement climatique dans le secteur de l'investissement et des technologies, notamment les technologies propres et l'intelligence artificielle. Il consacrera ainsi son temps entre l'écriture d'un livre sur le rôle de l'intelligence artificielle dans la lutte au changement climatique et ses activités de conseiller stratégique chez Cycle Capital Management, le plus important gestionnaire de fonds en capitaux de risque dédié aux technologies propres au Canada, ainsi qu'au sein de la firme de services conseil spécialisée dans les enjeux d'économie verte et d'économie sociale, Copticom, pouvait-on lire dans le communiqué émis par Équiterr ce matin. Et la Canadienne Michaëlle Jean a officiellement perdu son pari. Les membres de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, ont refusé de lui confier un second mandat à la barre de l'institution au sommet d'Erevan en Arménie vendredi. Sans surprise, c'est la ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Louise Mushikiwabo, qui lui a été préférée pour prendre les rênes de l'institution. Il y a eu consensus en faveur de sa candidature, selon le bureau du premier ministre Justin Trudeau. Le projet pilote d'Uber prolongé d'un an. Le Conseil des ministres du gouvernement Couillard, qui s'est réuni pour la dernière fois hier, a prolongé d'un an les règles qu'il avait mises en place pour régir la multinationale. Ce cadre réglementaire devait venir à échéance dimanche prochain, soit le 14 octobre. Les conditions selon lesquelles l'entreprise va poursuivre ses activités dans la province restent inchangées, a-t-on confirmé dans les rangs libéraux et caquistes. Cette décision découle d'une demande de l'équipe du premier ministre désigné, François Legault. Au bureau de M. Legault, on a dit vouloir éviter de précipiter une décision dans ce dossier, considérant l'imminence de la fin programmée du projet pilote. La composition du nouveau Conseil des ministres ne sera connue que jeudi prochain, soit 4 jours après l'expiration des règles actuelles. Preuve que les échéanciers sont respectés à ce jour, le recteur de l'Université de Montréal a ouvert le chantier du nouveau campus à l'ancienne gare de triage Outremont à la mairesse de Montréal. M. Guy Breton et la mairesse Valérie Plante ont visité hier le bâtiment principal avec son grand hall des sciences ouvert sur 8 étages. Au rythme où vont les travaux, les premiers étudiants pourront franchir ses portes à la rentrée d'automne 2019. Ce projet baptisé 1000 MIL, toutes des lettres écrites en majuscules, Montréal, a nécessité 150 millions d'investissements municipaux pour réaménager une vaste friche industrielle. Outre le campus, l'argent permettra de créer de nouvelles rues, une piste cyclable protégée, des parcs, des lieux publics et un accès souterrain à la station Acadie du réseau de métro. Enfin, la Ville de Montréal a ajouté l'obligation pour l'université de construire 1300 logements. C'est certain que le quartier va changer, mais il y aura 400 unités dites abordables et sociales, a assuré la mairesse interrogée au sujet des craintes du voisinage. Espagne, le bilan des inondations qui ont frappé l'île de Majorque dans l'archipel touristique des Baléares a grimpé hier à 12 morts, dont 3 Allemands, 2 Britanniques et 1 Néerlandaise. Un enfant de 5 ans était toujours porté disparu. Environ 900 personnes aidées de chiens et de drones sont mobilisées pour les recherches et pour le nettoyage des zones touchées. Et le gouvernement malaisien a décidé l'abolition de la peine capitale, un châtiment qui suscitait une opposition de plus en plus grande dans ce pays qui compte plus de 1200 détenus dans les couloirs de la mort. Le gouvernement est d'accord pour abolir la peine de mort, a déclaré le ministre malaisien des Communications, Gobind Singh Deo. J'espère que la loi sera bientôt amendée. La peine capitale par pendaison est actuellement prévue par la loi malaisienne pour toute une série de crimes allant du meurtre à l'enlèvement, en passant par la possession d'armes à feu et le trafic de drogue.
Oui, j'y te partout, bravo. Aucune crie au monde, l'une douce. je ne sais quoi qui fait que c'est toi, bébé, qui sera toujours aimé. Il aurait fallu t'inventer si tu n'avais pas existé.
Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte Bardot, bravo. Aucune fille au monde n'est aussi sympa que toi. Si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut, dans un petit village caché sous les fleurs sauvages sur le versant d'un coco. C'est à Madureira, tu verras les cariocas sortir des maisonnettes pour s'en aller à la fête des sambas.
Et tu verras les collines, les filles à la taille fine, avancées à petits pas. Et les fanfares dansent un joyeux tintamarre, emmêlés le flot bizarre des écoles de samba.
On vient d'entendre le grand orchestre du Plan d'Ide qui nous chante un petit medley. Brigitte Bardot et Si tu vas à Rio.
Fais du bien ça pour finir la semaine dans un rythme enjoué parce que les nouvelles sont souvent tristes. Nouvelle saison, nouveaux espoirs, les Canadiens déçus. Le Canadien a reçu jeudi la rare visite des Kings de Los Angeles pour son premier match local de la saison régulière. Au moment où ces lignes étaient écrites, le tricolore tirait de l'arrière 2-0. Avec une période à jouer, les partisans réunis au Centre Bell ont eu droit à la visite d'anciens du Canadien pour souligner les 25 ans de la dernière conquête de la Coupe Stanley en 1993. Parmi les invités d'honneur, l'ex-entraîneur chef Jacques Demers, victime d'un accident vasculaire cérébral en 2016, était présent. Ensuite, l'État vendeur de cannabis, un délicat exercice d'équilibre. La généalogie génétique permet de traquer les criminels, mais elle a aussi une incidence sur le respect de la vie privée. La chronique de José Blanchette s'intitule « Toi aussi, YouTube » avec donc les mots « clic »,« toi aussi » et le mot « clic » YouTube. Et actualité, « Racontez-moi votre histoire ». C'est dans le cahier A. Et « Racontez-moi votre histoire », des historiens recueillent auprès de gens ordinaires des récits inédits en marge de l'histoire officielle. Oui, on parle du Canadien au moment d'écrire ces lignes qui tiraient de l'arrière 2-0 et finalement, ils ont été battus à plate couture 3-0, 3 pour les Kings. Et maintenant, l'État vendeur de cannabis, un délicat exercice d'équilibre. L'État vendeur de cannabis, point d'interrogation. C'est un difficile exercice d'équilibriste que se prête la Société québécoise du cannabis, la SQDC. En vue de la légalisation de cette substance, le 17 octobre, les employés sont actuellement formés par Québec pour faire tomber les tabous liés à la consommation du cannabis et rendre la chose socialement acceptable, sans pour autant faire la promotion de cette consommation, indiquent des documents de formation obtenus par Le Devoir. Depuis le 27 septembre, près de 180 personnes suivent une formation intensive orchestrée par la Société québécoise du cannabis afin de devenir conseiller, directeur adjoint ou directeur dans l'une des 12 succursales de la Société qui vont ouvrir leurs portes la semaine prochaine. Dans un document de synthèse obtenu en vertu de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics, la nouvelle entité souligne à son futur personnel, dont la fonction est inédite, que l'acceptabilité sociale est au cœur de sa mission et de ses valeurs et que, par ce principe, elle vise à combattre les perceptions négatives à l'endroit de la plante psychotrope. Consommer du cannabis ne doit pas être présenté comme un vice ou une maladie, résume le document, dans la section sur l'environnement de travail et les principes d'aménagement des succursales. L'espace et le service doivent donc offrir un climat dans lequel le consommateur se sent à l'aise. Au-delà de l'acceptabilité sociale, la formation des futurs employés de la société insiste sur l'éducation des consommateurs en matière de cannabis, sur la sécurité dans laquelle ce commerce légal doit être exploité et sur la protection de la santé par l'accès à des produits de qualité provenant de fournisseurs certifiés. La nouvelle société d'État précise d'entrée de jeu à son personnel que son mandat est social plutôt que commercial et que ses succursales doivent favoriser l'intégration des consommateurs au marché légal du cannabis sans favoriser la consommation, peut-on lire. La Cour suprême du Canada a déterminé que les ministres fédéraux n'ont pas l'obligation de consulter les groupes autochtones lorsqu'ils élaborent des lois. Dans une décision rendue jeudi au sujet d'une Première Nation de l'Alberta, une majorité des membres du plus haut tribunal a déclaré que le processus de législation n'est pas un comportement de la Couronne assujetti à l'obligation de consulter les peuples autochtones. La décision permet de clarifier les mesures que le gouvernement fédéral doit prendre et les moments où il doit les prendre pour respecter l'obligation de la Couronne d'agir honorablement dans ses relations avec les groupes autochtones. L'école NAD déménage à l'île Balmoral. À l'étroit, dans ses locaux de l'avenue Ogilvy, l'École des arts numériques, de l'animation et du design déménagera l'an prochain dans l'édifice de l'îlot Balmoral, situé au cœur du quartier des spectacles du centre-ville de Montréal. Associée à l'Université du Québec à Chicoutimi, l'école NAD ou NAD a conclu une entente avec la Société d'habitation et de développement de Montréal afin d'occuper 3 étages du nouveau bâtiment de l'îlot Balmoral, où logera également l'Office national du film du Canada. Le coût du projet de redéploiement de l'école s'élève à plus de 40 millions, alors que le budget annuel de l'UQAC, l'Université du Québec à Chicoutimi, atteint 110 millions. Les nouveaux locaux seront prêts pour la rentrée scolaire de 2019. Après le passage de l'ouragan Michael sur le nord-ouest de la Floride, secouristes et militaires s'affairaient jeudi à venir en aide aux citoyens frappés par la catastrophe naturelle qui a fait au moins 6 morts selon les autorités locales. Le bilan des morts, fixé à 2 en début de journée, s'est alourdi alors que l'ouragan, rétrogradé en tempête tropicale, poursuivait sa course vers l'Atlantique. Et selon les autorités, ce chiffre pourrait grimper dans les prochains jours au rythme des recherches dans les secteurs les plus durement touchés. Au moment où ces lignes étaient écrites, Michael avait survolé la Géorgie, puis provoqué des crues soudaines en Caroline du Nord et en Virginie, inondant des régions qui ne se sont pas encore entièrement remises de l'impact de l'ouragan Florence. Rues jonchées d'arbres déracinés, maisons aux toitures éventrées, si ce n'est carrément soufflées par les vents. Le réveil a été brutal jeudi pour les habitants de la région du Panhandle de Floride, où Michael a d'abord touché terre. Passagers ont pris place à bord de l'Airbus qui a décollé le jeudi pour le plus long vol commercial au monde, un marathon de près de 19 heures entre Singapour et New York. Un menu bien-être, un très long catalogue de films et beaucoup de patience ne seront pas de trop pour les passagers, tandis que 2 pilotes et 2 copilotes devaient se relayer aux commandes de l'Airbus A350-900 ULR, qui parcourra les 16 700 km séparant la cité État de New York, souligne l'agence Reuters. Ce bimoteur a fait passer la distance parcourue maximum de la gamme de son long courrier A350 de 8 100 milles nautiques, environ 15 000 km, et jusqu'à 16 heures de vol, à 9 700 nautiques, environ 18 000 km, et jusqu'à 20 heures de vol grâce à une optimisation de son système de carburant. Un procès intenté par le magnat des affaires Frank Stronach, qui réclame 520 millions d'indemnités de dommages-intérêts à sa fille, ses deux petits-enfants et d'autres, a mis à nu un différend vieux de 2 ans sur le contrôle et la direction de l'entreprise familiale. M. Stronach, qui a créé Magna International et l'a transformé en un géant mondial des pièces automobiles, allègue dans une plainte déposée devant la Cour supérieure de justice de l'Ontario que sa fille Belinda Stronach et son ancien associé Alan Ossip ont mal géré les actifs de la famille et comploté pour en prendre le contrôle. Belinda Stronach a rejeté ces allégations. Les avocats de Nicole et Frank Walker, les petits-enfants nommés dans la poursuite, ont contesté les accusations. Et Hockey Canada a dévoilé jeudi les noms des 23 joueuses, dont 2 Québécoises, qui tenteront de procurer au Canada une première médaille d'or en 4 ans à la Coupe des Quatre Nations qui se déroulera du 6 au 10 novembre à Saskatoon, en Saskatchewan. Perry Pearne sera l'entraîneur-chef de la formation canadienne. Ce tournoi permettra à la direction de Hockey Canada d'évaluer les joueuses en prévision du championnat du monde de hockey féminin qui aura lieu à Espoo, en Finlande, du 4 au 14 avril
2019. Tout est affaire de décor, changer de lit, changer de corps, à quoi bon puisque c'est encore moi qui moi-même. Et m'éparpille, et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles où j'ai cru trouver un pays. Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd, le temps de rêver est bien court. Que faut-il faire de mes jours? Que faut-il faire de mes nuits? Je n'avais amour ni demeure, nulle part où je vis ou meurs. Je passais comme la rumeur, je m'endormais comme le bruit. Est-ce ainsi que les âmes vivent? Et là, baisées au loin, les suivent. C'était un temps déraisonnable. On avait mis les morts à table. On faisait des châteaux de sable. On prenait les loups pour des chiens. Tout changeait de pôle et d'épaule. La pièce était-elle ou non drôle? Moi, si j'y tenais mal mon rôle, c'était de n'y comprendre rien. Dans le quartier Hohenzollern, entre la Sarre et les casernes, comme les fleurs de la luzerne, fleurissaient les seins de Lola. Elle avait un cœur d'hirondelle sur le canapé du bordel. Je venais m'allonger près d'elle, dans les hoquets du pianola. Ainsi que les âmes vivent, et là, baisées au loin, les suivent. Le ciel était gris de nuages, il y volait des oies sauvages qui criaient la morte au passage au-dessus des maisons des quais. Je les voyais par la fenêtre, leur chant triste entrait dans mon être, et j'y croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke. Elle était brune et pourtant blanche, ses cheveux tombaient sur ses hanches, et la semaine et le dimanche, elle ouvrait à tous ses bras nus. Elle avait des yeux de faïence, elle travaillait avec vaillance pour un artilleur de Mayence qui n'en est jamais revenu.
Est-ce un signe que les âmes vivent et l'air baisé au loin les suive?
Il est d'autres soldats en ville et la nuit monte les civils. Remets du rimel à tes cils, Lola, qui t'en ira bientôt. Encore un verre de liqueur, ce fut en avril à 5 heures. Petit jour que dans ton cœur, un dragon plongea son couteau.
Est-ce ainsi que les hommes vivent et leur baiser au loin les suivent comme des soleils révolus?
Formation Forever Pavot qui revisitait Est-ce ainsi que les hommes vivent? Ça pique votre curiosité. Bien, ils viendront nous voir dans le cadre des coups de cœur francophones qui débutent dans 2 ou 3 semaines, début novembre.
Merci Maurice pour cette belle suggestion. En une du Journal de Montréal de ce vendredi, triste nouvelle, on l'apprenait hier, décès de Joanne Fontaine. Elle a cessé de souffrir, entre guillemets. 25 ans après la conquête, coach Demers ovationné, 9 pages. Alors on le voit, M. Jacques Demers tenant une petite coupe Stanley, puisqu'il y a donc 25 ans, ça se passait en 1993, et c'était lui qui était l'entraîneur à l'époque. Le fisc québécois lui refuse un crédit d'impôt, handicapé pour Ottawa, mais pas pour Québec. Le forfait Jaquette disparaîtra au profit d'une autre prime. Ces sommes controversées seront finalement abolies le 10 décembre prochain. Révélée par notre bureau d'enquête en janvier, la prime de 66 $ est versée depuis 2009 chaque fois qu'un spécialiste en médecine interne visite un patient en isolement qui souffre par exemple de l'influenza ou de la gastro-entérite. Facture pour les contribuables 8 millions de $ et ce uniquement pour les 3 dernières années. Les spécialistes en médecine interne ne perdront pas tout. L'argent économisé par l'abolition de la prime Jaquette servira à augmenter les montants qu'ils touchent pour 5 codes d'actes, comme les visites de transfert ou les tournées de malades le week-end. Handicapé selon Revenu Québec. Revenu Québec a refusé un résident de Québec né sans sa main gauche une attestation de déficience physique alors qu'il a obtenu facilement son certificat d'impôt pour personnes handicapées de l'Agence du revenu du Canada. L'an dernier, à 40 ans, Pascal Hardy, venu au monde avec une malformation majeure au membre supérieur gauche en raison d'une maladie des lames amniotiques, a décidé d'effectuer un retour aux études à temps complet en service social. Une décision réfléchie qui a eu un impact financier sur sa famille. Son conseiller pédagogique lui a indiqué qu'il avait droit à des bourses et des crédits d'impôt en raison de son handicap. Le médecin de M. Hardy a signé les documents dans lesquels il explique la nature du handicap. Rapidement, les prêts et bourses lui ont accordé son statut de handicapé. Au moment des impôts, le père de famille a rempli la demande de certificat pour personnes handicapées de l'Agence du revenu du Canada, ainsi que l'attestation de déficience de Revenu Québec. Le gouvernement du Canada a déterminé que Pascal Hardy répondait aux critères d'admissibilité pour le CIPH, remboursant même rétroactivement 7 000 $ pour les 10 dernières années. De son côté, Revenu Québec a refusé sa demande. Sa contestation a aussi été rejetée. Pourtant, le formulaire du Québec et celui du Canada sont pratiquement identiques, souligne M. Hardy. « Comment je peux être reconnu au pays, mais pas dans la province », peste-t-il. Dans la lettre de refus, Revenu Québec soutient que sa situation ne répond pas aux critères donnant droit à un crédit d'impôt. En signant le document, le médecin de M. Hardy a coché les cases indiquant qu'il pouvait voir, parler, entendre, marcher, utiliser ses fonctions intestinales, s'alimenter et s'habiller. Revenu Québec justifie le refus par ces raisons. C'est un peu bizarre, le document. Je suis capable de faire des affaires, mais je suis tout le temps en mode adaptation. Mon médecin n'avait pas de case pour marquer que je devais toujours m'adapter, a expliqué le père de famille. À la suite de l'appel du Journal de Montréal, Revenu Québec a souligné être prêt à réviser à nouveau le dossier avec M. Hardy. Il écope d'un an de prison pour avoir texté au volant. Pour la première fois au Québec, un homme a été condamné à une peine de prison pour avoir texté au volant, ce qui a causé l'amputation de la jambe d'une motocycliste. Le 26 juillet 2015, Guillaume Crépeau conduisait sa Mazda Protégée 2001 sur la route 117 près de Rouyn-Noranda. Sa fillette se trouvait sur la banquette arrière. Il a alors envoyé le message texte suivant à sa sœur « Je suis en route ». Pendant qu'il écrivait avec son cellulaire sur la cuisse, sa voiture a dévié de sa voie pour aller percuter une moto qui roulait en sens inverse. La motocycliste, Danielle Boutet, a été gravement blessée à la jambe gauche. Après plusieurs opérations, les médecins ont dû lui amputer la jambe quelques mois après la collision. La vie de cette femme active a été complètement chamboulée pour un texto qui ne pouvait pas attendre, a dit le juge Jean-Pierre Gervais hier matin au palais de justice de Rouyn-Noranda avant de condamner M. Crépeau à 12 mois de prison ferme. Il ne pourra pas conduire pendant une période de 3 ans. Guillaume Crépeau a pris le chemin de la prison en pleurs. Le chauffeur d'un camion de l'entreprise Tim Hortons qui est resté coincé sous le viaduc ferroviaire de la rue Guy et qui a perturbé la circulation de 3 lignes de train de banlieue hier matin à Montréal a écopé d'une amende de 160 $. Le camionneur n'a visiblement pas remarqué les nombreux panneaux autour du viaduc qui indiquent la hauteur maximale permise de 3,7 mètres. Depuis le 1er juin 2017, il s'agit du 8e véhicule en mortaise sur la rue Papineau le 18 septembre, ce qu'on peut voir donc dans le journal d'aujourd'hui, qui frappe le viaduc ferroviaire et oblige les trains de banlieue à arrêter ou à retarder leur service, selon Exo. La circulation a été perturbée sur les lignes de Candiac, Saint-Jérôme et Vaudreuil-Hautsun. Pas de saumon OGM dans mon restaurant. Une dizaine d'entreprises canadiennes s'engagent à ne pas utiliser de saumon génétiquement modifié, tandis que 2 cargaisons sont arrivées au Québec depuis son autorisation au pays en 2016, a appris le journal. Le Canada est le seul pays à autoriser la commercialisation de ce premier animal génétiquement modifié au monde, le saumon Aquadvantage ou Vantage, et le gouvernement n'oblige pas l'étiquetage de ce genre de produit. Ce saumon de l'Atlantique élevé au Panama contient un gène de l'hormone de croissance du saumon du Pacifique afin d'accélérer son développement. Il grandit 4 à 6 fois plus vite qu'un poisson de l'Atlantique normal. Santé Canada considère qu'il est aussi sain et nutritif que le saumon régulier. Des experts canadiens et d'ailleurs se questionnent cependant sur les effets à long terme de sa consommation. Sa production pose aussi des questions éthiques et environnementales. Parmi les signataires de la déclaration, on trouve des entreprises québécoises comme la poissonnerie Odessa, la chaîne Aki Sushi, les restaurants Manitoba et Auguste ou encore le distributeur Les Aliments Saveurs du Monde, entre autres. Le nombre de naissances par césarienne a quasiment doublé dans le monde en 15 ans, de 12 à 21 % entre 2000 et 2015, dépassant même 40 % dans 15 pays, conduisant les gynécologues à s'interroger sur cette « épidémie » entre guillemets dans un dossier publié dans le Lancet. On estime entre 10 et 15 % la proportion de césariennes absolument nécessaires pour des raisons médicales. Mais 60 % des 169 pays passés en revue se situent au-dessus de cette fourchette, tandis qu'un quart des pays sont en dessous, mettant en danger la mère et l'enfant, relève l'étude basée sur les chiffres de l'OMS et de l'UNICEF. Dans 15 pays, ce sont plus de 40 % des naissances qui ont lieu par césarienne, République dominicaine, Brésil, Égypte, Turquie, Venezuela, Chili, Colombie, Iran, etc. Les disparités sont écrasantes entre l'Afrique subsaharienne, 4,1 % de césarienne, et l'Amérique du Nord, 32 % en 2015, et en Europe occidentale, 26,9 %.
Tongo, butu, pokwa, motema nanga, iponi seyo. Tongo, butu, pokwa, bandoto nanga, eza seyo. Basala bazua, baina koina, balingi natika, nako tika te. Basala bazua, baina koina, balingi na boya, nako boya te.
La pièce La La Love par Pierre Quenders, qui est accompagné de Kisson Tianaradzwao.
Alors, allons-y donc avec les journaux Canadiens, les Néo-Brunswickois fumeraient moins de marijuana que les autres Canadiens. Et on peut lire ça dans Acadie Nouvelle. Statistique Canada révèle que la consommation de marijuana a été moins élevée au Nouveau-Brunswick que dans le reste du Canada sur une période de 3 mois en 2018. Quelque 13,8 % des résidents du Nouveau-Brunswick ont déclaré avoir consommé du cannabis au troisième trimestre de 2018, ce qui représente des estimations moins élevées que la moyenne canadienne de 15,2 %. Ce taux atteignait près de 25 % en Nouvelle-Écosse, 20 % en Colombie-Britannique, 15,1 % en Ontario, et seulement 10,1 % au Québec. Ça va peut-être monter à partir du 17, on verra. Statistique Canada souligne par ailleurs qu'environ les deux tiers des consommateurs occasionnels de cannabis au pays déclarent n'avoir rien dépensé au cours des 3 derniers mois à ce chapitre, misant plutôt sur la culture de partage dans un contexte social. La plus récente série de données de l'enquête sur le cannabis réalisée par l'Agence fédérale montre que 14 % des consommateurs occasionnels ont dépensé entre 251 $ et 500 $ au cours des 3 derniers mois, alors que 3 % ont dépensé plus de 1 000 $ pour leur cannabis. Ces chiffres ne tiennent pas compte des Canadiens qui ont déclaré avoir consommé du cannabis tous les jours ou presque. La fréquence de consommation de cannabis était d'autre part plus importante chez les hommes, 18 % que chez les femmes, 12 % et diminuait aussi avec l'âge. La consommation était 2 fois plus élevée chez les Canadiens âgés de 15 à 24 ans, 27 % que chez les 25 et plus. De la direction, c'est daté du 11 octobre par Sophie Gaulin et c'est dans La Liberté. Une piètre bonne nouvelle en plus servir échauffée pendant la Semaine nationale des journaux. Une semaine qui a rassemblé plus de 400 journaux au Canada pour appeler haut et fort au gouvernement fédéral l'intérêt que portent les citoyens et citoyennes à lire des reportages fouillés, de qualité, à l'heure où les fausses nouvelles mettent en danger les démocraties des pays les plus libres. La piètre bonne nouvelle est venue par le biais de la ministre du Tourisme, des langues officielles et de la francophonie, Mélanie Joly. La Semaine nationale des journaux, du 1er au 7 octobre, était bien entamée quand, le 4 octobre, la ministre a décidé de mettre sous la dent des journalistes sa bonne nouvelle. Sa tentative d'essayer de faire croire aux Canadiens que le gouvernement de Justin Trudeau entretenait l'intention d'aider la presse locale et régionale. D'abord, les 4,5 millions saupoudrés sur 5 ans pour aider les médias de langue officielle en situation minoritaire avaient déjà été rendus publics lors du dévoilement du plan d'action 2018-2023, au mois de mars. Donc, rien de nouveau. Un simple effet d'annonce. Ensuite, il faut être conscient que cet argent ne va pas dans les coffres des journaux pour qu'ils puissent investir dans du nouveau matériel ou payer des journalistes expérimentés. Non. Ces dollars sont tout juste destinés à rémunérer des stagiaires dans le cadre du programme Jeunesse Canada au travail. Mieux que rien, diriez-vous. Sauf que les journaux sont contraints d'embaucher des jeunes Canadiens aux résidents permanents, de moins de 30 ans, ayant étudié dans le domaine recherché et se trouvant sans emploi ou sous-employés au moment de la demande. Quand on sait que jusqu'à ce jour, il n'existe aucun programme en communication au journalisme en français dans tout l'Ouest canadien, comment s'étonner que les candidatures sont rares, très rares? Une seule dans le cas de La Liberté, le journal. Alors que l'offre d'emploi est affichée depuis juillet dans tous les réseaux possibles et imaginables, réseaux universitaires d'anciens diplômés offrant un programme de communication ou de journalisme, réseaux sociaux, réseaux de l'Association de la presse francophone et plus récemment dans le département d'aide à la recherche d'emploi de Pluriel. Qu'on se le dise, financer 58 stages à travers le pays dans des journaux et des radios dits communautaires n'est absolument pas à la mesure de la crise que traversent les journaux, tous les journaux. Au Manitoba, on n'aime pas les piètres bonnes nouvelles, et encore moins quand elles sont servies réchauffées, voire re-réchauffées. Le tour de passe-passe de Mélanie Joly pour faire croire à un intérêt du fédéral envers la presse locale et régionale a quand même un mérite. Il démontre une fois de plus clairement l'incompréhension totale des gouvernements successifs à l'égard de l'industrie de la presse et du métier de journaliste. Si Mélanie Joly avait bien cerné la crise des médias, Elle comprendrait que lorsque son gouvernement finance un stage, même à 100 %, il faut que sur le terrain, un rédacteur senior déjà très occupé se mette en plus de ses tâches à former le stagiaire. Une personne qui, la plupart du temps, ignore strictement tout de la province dans laquelle elle atterrit, tout des enjeux liés au contexte linguistique en situation minoritaire. Et un an plus tard, le stage rémunéré terminé, le tout nouvel employé formé, on fait quoi? On recommence, c'est ça? C'est comme ça qu'on veut sauver le journalisme de qualité au Canada et prétendre revitaliser les communautés? À coup d'un stagiaire par année? Soyons enfin sérieux. Ce dont la presse locale et régionale a besoin, c'est d'un financement de ces salles de nouvelles existantes. Oui, les journaux sont prêts à former la relève, mais ils refusent catégoriquement de s'entendre dire que les 4,5 millions du programme de Jeunesse Canada au travail constituent une solution réfléchie pour financer une main-d'œuvre solide dans les médias de qualité. Et rappelons que la presse francophone d'un bout à l'autre du pays a perdu plus de 1,5 million de dollars par année en publicité gouvernementale dans les 12 dernières années. Au moins, les sommes publicitaires versées auparavant l'étaient sans autre condition que celle de publier l'annonce envoyée par l'agence qui représente le gouvernement. Quant aux 10 autres millions de dollars sur 5 ans, annoncés d'abord dans le cadre du plan d'action, puis de nouveau le 4 octobre, qui seront accordés à partir de 2019, ils sont destinés à la réalisation de projets dans les journaux. Là, ce niche peut être une meilleure nouvelle. Mais gardons à l'esprit que créer un journal de qualité, hebdomadaire ou quotidien, est déjà un très gros projet en soi. Maintenant, espérons que le gouvernement n'attende pas 12 autres mois pour détailler ce programme-là durant la Semaine nationale des journaux 2019. Au Manitoba, on n'aime pas les piètres bonnes nouvelles, et encore moins quand elles sont servies réchauffées, voire re-réchauffées. L'Express maintenant, les aînés francophones hospitalisés mais n'ayant plus besoin de soins intensifs ont désormais accès à la place Saint-Laurent, à deux petites chambres privées ainsi que du soutien professionnel leur permettant de faire la transition vers l'autonomie et de regagner leur domicile. Ce nouveau service des centres d'accueil héritage accueille sa première cliente depuis la mi-septembre. La nouvelle unité de répit et de soins de transition inclut une douche et des toilettes conçues pour les personnes à mobilité réduite ainsi que des soins de soutien, fournis 24 heures sur 24 par une équipe de préposés. Les clients accueillis dans cette unité peuvent aussi bénéficier des programmes et services offerts en français par CAH, services de jour, soins personnels, accompagnement dans la navigation du système de santé, activation physique et cognitive en groupe et personnalisée qui prône le vieillissement actif. Cette initiative, mise sur pied avec le soutien du RLISS du Centre Toronto, le principal bailleur de fonds de CAH, fait partie d'une plus grande initiative mise en œuvre dans la ville de Toronto. On vise à faciliter la transition des personnes qui sont prêtes à quitter l'hôpital, mais qui ne peuvent réintégrer leur domicile faute de services de soutien ou d'adaptation nécessaires pour assurer leur autonomie et leur sécurité. Les deux places de CAH sont les seules disponibles et exclusivement réservées pour les francophones résidant dans la ville de Toronto. Désormais, les coordonnateurs de soins des hôpitaux pourront acheminer leurs clients francophones vers les soins de transition en français de CAH par l'entremise d'un point d'accès centralisé. Chaque fois, un gestionnaire de cas de CAH procédera à l'évaluation avec l'équipe des hôpitaux. Depuis 1978, CAH a développé une gamme de services pour répondre aux besoins des aînés francophones, de l'hébergement assisté aux soins personnels, en passant par les services à domicile dans la communauté et le service de jour pour aînés frêles. Rappelons que CAH a obtenu cet été l'accréditation pour la phase 2 d'Agrément Canada, un gage de reconnaissance de la viabilité de ses opérations dans une démarche d'amélioration continue de ses services. Alors voilà, CAH pour Centre d'accueil héritage.
Thank you.
Vous écoutez Le quotidien des quotidiens. Hélène Denis qui vous souhaite un agréable vendredi 12 octobre. À venir en musique, une belle reprise d'une chanson de Leonard Cohen par Mistress Barbara. Restez là.
Vous écoutez Le quotidien des quotidiens avec Hélène Denis.
Et on vient d'entendre Dance Me to the End of Love par Mistress Barbara.
Une chanson qui convient bien avec cette nouvelle concernant la mort de Joan Fontaine. Dance Me to the End of Love. Elle a dansé, elle, jusqu'au bout de sa vie. Elle s'est éteinte donc à l'âge de 63 ans. Elle est morte de manière très paisible chez elle, peut-on lire dans le Journal de Montréal. Sa famille, son amoureux et ses amis ont été à son chevet jusqu'au bout. L'actrice est morte le jour de l'anniversaire de son fils qui était aussi présent. Ça fait du bien de voir qu'elle ne souffre plus parce qu'elle avait donné, confie la comédienne Danielle Proulx, une amie de longue date de Joan Fontaine. Et un peu plus loin, on peut lire que Joan Fontaine et Danielle Proulx étaient amies depuis 47 ans, soit depuis que leurs chemins s'étaient croisés à l'école de théâtre au début des années 70. « On a voyagé ensemble, on a tout fait ensemble », résume la comédienne émue. Joan, c'était non seulement une grande amie, c'était une grande femme, une grande actrice, poursuit-elle. Quelqu'un en dehors des normes, en dehors des mesures qui sortaient du lot. Malgré une vie difficile avec beaucoup d'embûches, c'était quelqu'un qui rebondissait. Jamais je n'ai vu quelqu'un aimer autant la vie. C'était contagieux. J'espère avoir le dixième de tout ce qu'elle a eu comme élan vital. Coach de vie, conférencière, elle laisse notamment dans le deuil son fils Raphaël Fontaine Joubert, dont le père est le regretté Roger Joubert, plusieurs amis et membres de sa famille. Et sa vie s'est terminée quand même avec une espèce de bombe. Après des années de vache maigre en tant qu'actrice, elle a obtenu le second rôle de Céline, une non-voyante, personnage important de la deuxième saison de la série L'Imposteur avec Marc-André Grondin. Sa prestation de qualité lui a permis de mettre la main sur un premier prix Gémeaux en 2018. Et au début du mois d'octobre, on l'a aussi vu se pavaner au bras de Marcel Leboeuf sur la scène de l'émission Les Dieux de la danse, compétition amicale à Radio-Canada. En plus de son travail devant les caméras, Joan Fontaine a plusieurs fois transmis ses connaissances à des élèves en donnant des cours d'occupation de l'espace au collège Lionel Gros de Sainte-Thérèse. Intéressée par le milieu de l'éducation, elle a également effectué un retour aux études à 50 ans, choisissant de se concentrer sur la programmation neurolinguistique. Très active sur les réseaux, elle avait cessé de publier des messages et des vidéos de motivation quelques jours avant sa mort. Et sur les réseaux sociaux, plusieurs hommages, ce qu'ils ont dit entre autres Marie-Soleil Michon. Repose en paix, Joan Fontaine, je garderai toujours précieusement dans mon souvenir le souvenir de tes éclats de rire, tes yeux espiègles et ta façon unique de virevolter. Ta joie de vivre était si intense. Mes sincères sympathies, c'est Marie Brassard. J'ai rencontré Joan il y a 2 ans lors du tournage de L'Imposteur et j'ai été très touchée et impressionnée par son authenticité et sa profondeur, par sa façon aussi de regarder venir la mort avec tant de dignité. Et finalement, Dan Bigras, je suis triste, mais quelle fighteuse quand même. R.I.P. Joan. Alors, le film First Man de Damien Chazelle avec Ryan Gosling, Claire Foy et John Bernthal reçoit 4 étoiles sur 5, un drame biographique. C'est Marc-André Lucier qui accorde cette note à ce film. Et sa critique s'intitule Partir revenir. 2 ans après La La Land qui lui a valu l'Oscar de la meilleure réalisation, Damien Chazelle nous plonge cette fois à l'époque de la course à l'espace quand la NASA a mis tous les efforts requis pour atteindre le but ultime que le président Kennedy avait fixé, envoyer un homme sur la Lune avant la fin des années 60. Au récit héroïque pompeux à la gloire du savoir-faire américain, Chazelle préfère une autre approche, celle du portrait intime. Et c'est bien tant mieux. Il colle ainsi davantage à la personnalité de celui qui, sans le chercher, a inscrit son nom dans l'histoire du monde contemporain. À cet égard, Ryan Gosling, qui incarne un Neil Armstrong très subtilement habité, transcrit parfaitement la nature de l'homme en se glissant dans la peau d'un héros très discret. Chantons les stations. Après avoir excité les internets, entre guillemets, c'est ce qu'écrit Chantal Guy avec leur pot pourri de reprises mettant en vedette des noms de villes québécoises cet été. Les humoristes Arnaud Soli et Julien Corriveau remettent ça avec les noms des stations du métro de Montréal. On découvre avec ravissement comment ils ont inséré Honoré Beaugrand et Beaubien dans la chanson « Un beau grand bateau » de Jerry Boulet ou « Namur dans mon ange » d'Éric Lapointe, irrésistible et viral encore une fois. Et puis Maurice, est-ce qu'on peut le faire entendre à nos auditeurs, cette espèce de pot-pourri rigolo? En même temps, c'est une espèce d'hommage aux stations de métro de Montréal. On y va.
Fait beau bien grande vague. Il suffisait qu'on s'aime, puis il suffisait d'aimer. Laurier, comment va? J'entrape Acadie, di, pousse l'ananas et moule café. Tu manques, on a plein de choses à se dire. Après genre il beau temps, ligne orange peut durer longtemps. Pa 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 pa.
Si tu savais tout ce que je te jure du fond de mon amour.
Sur le pont d'Angrignon, on y danse, à Star Square Victoria, c'est O-A-C-I. À Star Square Victoria, c'est O-A-C-I. Prendre un verre d'un bière, mon minou. Prendre un verre d'un bière, Henri Beau. Vio! Villa Maria, Villa Maria. Elle a dit son, 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 elle a dit son, son. Frosty de Snowden, ça c'est une station sa ligne bleue.
Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule?
Crée-moi, crée-moi-y. You are the one, very, 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 very.
Mais c'est rigolo, j'espère qu'il y en aura d'autres parce qu'on n'a pas toutes nommé les stations de métro, mais c'est un beau flash. Alors, c'était les humoristes Arnaud Soli et Julien Corriveau qui nous servaient ce pot pourri, pas piqué des verres et assurément original. Alors, il nous reste encore quelques minutes à passer ensemble. Vous le savez sans doute, octobre est le mois de l'accessibilité universelle. Dans les bibliothèques de la Ville de Montréal, il y a plein d'activités. Pour souligner ce mois, comme un atelier de peinture sans les yeux, sans les mains. Alors, cet atelier est réalisé par le Centre d'intégration à la vie active, peindre avec une seule main, avec la bouche ou même sans voir. Voilà le défi que doivent relever les artistes vivant avec une limitation fonctionnelle. Cet atelier ludique abordant le thème des différences permettra aux jeunes de se sensibiliser à cette réalité, tout en développant des aspects insoupçonnés de leur créativité. C'est une activité qui s'adresse aux jeunes de 8 à 12 ans. Ça se déroule le samedi 13 octobre, demain, à 14 heures, à la bibliothèque Downsick, située rue La Jeunesse. Et le même atelier aura lieu plus tard en octobre, soit le 25 octobre. Et cette fois, ce sera à la bibliothèque de Côte-des-Neiges. Je poursuis avec d'autres suggestions qui ont lieu ce week-end. Alors, je cherche et je trouve Bibliothèque de Saint-Léonard, exposition nature insaisissable, des aquarelles et des pinceaux À la main, les artistes vivant avec une limitation fonctionnelle vous offrent la nature en ville. C'est pour tous et c'est jusqu'au 28 octobre. La zoothérapie racontée, cette fois, c'est demain à 14h pour les jeunes de 7 à 12 ans. À l'aide d'histoires, un zoothérapeute illustrera de quelle façon les animaux font du bien aux humains. Elle invitera ensuite les enfants à faire la lecture aux animaux présents. Inscription requise, c'est à la bibliothèque de Saint-Michel. Et la bibliothèque Saint-Michel est située au 7601 rue François Perrault. Je vous donne le numéro de téléphone pour vous inscrire à cette activité intitulée « La zoothérapie racontée ». 514-872-4250. 514-872-4250. Je poursuis avec mes suggestions dans les bibliothèques de la Ville de Montréal en ce mois de l'accessibilité universelle. Parlez-vous LSQ. Marc-André Bernier, bibliothécaire sourd, invite le public à mieux connaître la culture sourde et à apprendre les rudiments de la langue des signes québécoise. C'est une activité destinée aux adultes. C'est dimanche 14 octobre à 14h et ça se déroule à la bibliothèque Frontenac. Toujours dimanche à 14h, à la bibliothèque Henri Bourassa, cette fois sur le boulevard Henri Bourassa, une conférence autour du livre « Papotisme ». Comment être père d'autiste sans se perdre, c'est Patrice Saussier qui signe ce livre. Quand l'autisme frappe à notre porte, tout peut arriver et ça frappe. En tant que famille, en tant que couple, en tant que père aussi. Mais tout n'est pas noir et tragique. Comment accueillir l'autisme au sein de sa famille? Lorsque tout le monde fait sa part, y compris les pères, ce tour sans fin de montagne russe peut aussi comporter ses nombreux moments de rire et de plaisir. Alors l'activité, je vous le rappelle, se déroulera à la bibliothèque Henri Bourassa dimanche à compter de 14h. À la bibliothèque Jacqueline de Repentigny sur la rue Bannatyne, les sourds, c'est comme ça, avec Pafoli et Jacques Lot. L'ACEPA vous offre un spectacle avec clowns suivi d'un atelier de magie. Les participants s'initient à la culture sourde et apprennent des mots en langue des signes québécoise, tout en s'amusant. C'est une activité pour les jeunes de 5 ans et plus. Ça se passe demain à compter de 13h30, donc du côté jeunesse de la bibliothèque Jacqueline de Repentigny. Je connaissais le cabaret de la dernière chance pour avoir habité à Rouyn-Noranda quelques années, mais le cabaret de la seconde chance, non. Vendredi, ce soir, à compter de 20h, aura lieu la 4e édition du cabaret de la seconde chance. C'est un spectacle de sensibilisation qui réunit des personnes talentueuses ayant eu à un moment de leur vie des démêlés avec la justice. Elles partageront la scène avec des artistes qui soutiennent leur cause, comme Diane Tell, Joanne Bluteau, Marie-Philippe, Guylaine Tremblay. L'organisme rappelle que 700 000 Québécois ont un casier judiciaire. Une exposition d'art est aussi présentée. Tarif 35,40 $ pour y participer. Et pour plus de détails, vous pouvez consulter Facebook / le cabaret de la seconde chance. Nathalie Choquette invite les enfants de 3 à 12 ans à connaître la sorcière Malboufa qui rêve de chanter de l'opéra. C'est à la Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce, demain 15h. Il faut réserver sur Accès Culture Montréal et le tarif est de 2,30 $, prix vraiment plus qu'abordable. Pour plus de détails, nataliechoquette.ca. Et à l'Outremont, ce soir, avec un humour irrésistible, les membres de Quartz, Louis-Alexandre Beauchemin, Philippe C. Leboeuf, François Dubé et François Potier-Bouchard interprètent un répertoire très varié, de la haute voltige sans filet. Et demain soir, 21h, on pourra entendre le groupe montréalais Chensus, qui réunit Chloé Lacasse, Geneviève Toupin et Vincent Carré. Un son unique, je ne sais pas si vous les avez entendus, ils étaient récemment à l'émission Boué Chaud à Télé-Québec et vraiment, ils sont très, très bons. Il faut dire que ces trois artistes ont un talent fou. Dimanche, 16h, Imusici de Montréal nous offre l'occasion d'entendre les inestimables chroniques du bon géant Gargantua. Théâtreoutremont.ca pour plus de détails. Bébé, oui, j'ai dit Beau et chaud, mais c'est Bébé, Belle et Bomme. J'ai tellement regardé ça, Beau et chaud, là, que ça m'est resté dans le cerveau. Mais je parlais de Belle et Bomme, évidemment. Donc, le groupe Chensus était de passage à cette émission tout récemment. Ce soir, il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler, Kevin Parent, c'est pas ce soir, c'est demain, samedi 20h. Il présente son spectacle à l'entrepôt de la Chine. Il reste encore quelques places. Et dans le quartier des spectacles, jusqu'au 28 octobre, tous les jours de 11h à 22h, sur la promenade des artistes, on peut voir les œuvres de 16 artistes ou collectifs. Pour plus de détails, quartierdespectacles.com. Et pour terminer, en ces derniers kilomètres du Festival du Nouveau Cinéma, c'est votre ultime chance pour profiter des œuvres de réalité virtuelle présentées en continu chaque jour. Une trentaine de courts-métrages permettent de plonger, entre autres, dans un conte de fées hawaïen de l'An de grâce de 1984, Songbird, dans un paysage post-humain hallucinatoire, View of Harbor, dans une rencontre à la frontière israélo-égyptienne Borderline, ou dans trois simulacres urbains en périphérie de Shanghai de Real Thing. Si vous êtes vraiment passionné par les dessous de la réalité virtuelle, sachez que la journée de vendredi, aujourd'hui, est entièrement consacrée à ce genre en croissance. Des réalisateurs, des créateurs et des producteurs seront réunis pour parler notamment de storytelling immersif. Alors, c'est vendredi, samedi, dimanche, de midi à 20h, c'est à la grande place du complexe des Jardins, et vendredi de 9h à 17h à l'Agora du Cœur des sciences de l'UQAM pour tout savoir sur les événements qui concernent le Festival du Nouveau Cinéma, nouveaucinéma.ca. Ici Hélène Denis qui vous dit un grand merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite une agréable fin de semaine. Et puis merci Maurice Bolduc à la mise en onde et au choix musical. On se retrouve quelque part la semaine prochaine peut-être? Peut-être qu'il me dit. On se quitte avec Angèle Dubois et La Pietà, sur un air bien connu du Cat Stevens. À bientôt!